Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix.
Ce mauvais goût, cette volonté d'atteindre la vérité à tout prix, cette manie d'adolescent dans l'amour de la vérité, tout cela ne nous importe guère. Nous sommes trop expérimentés, trop sérieux, trop gais, trop échaudés, trop profonds. Nous ne croyons plus que la vérité demeure vérité lorsqu'on lui arrache le voile. Aujourd'hui, c'est pour nous affaire de convenance, qu'on ne veuille pas tout voir dans sa nudité, ne pas se trouver présent partout, ni tout comprendre, qu'on ne veuille pas tout savoir. On devrait avoir plus de respect de la pudeur. Refuge de la nature qui se tient caché derrière des énigmes et de multiples incertitudes. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins est tout aussi trop sérieuse et trop gaie. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Marianne Bassler, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Théo Gomard. Le respect de la pudeur ou l'amour du masque, pourrait-on dire avec Nietzsche. Quand la nudité n'est plus une quête, qu'elle n'est plus la fin du désir, mais qu'elle s'affiche partout, sans ombrage ni nuance, on aspire tout naturellement à la pudeur, à sa délicatesse et à sa finesse. Car elle est ce qui cache une profondeur que l'on ne veut pas découvrir, que l'on veut résistante, que l'on veut rester retenue. La pudeur ou l'amour du masque, donc, mais aussi la vérité et la profondeur du masque lui-même, que l'on tente de faire parler mais en vain, pour en rester en fait à la surface, pour préférer même en rester à cette surface qui excite la curiosité. La pudeur ou l'excellence du mystère, donc. Mais si tout ce qui est profond aime le masque, tous les masques sont-ils profonds ? Depuis peu, la pudeur connaît un souffle nouveau, bizarrement, étonnamment. Cette valeur qu'on croyait désuète se retrouve aujourd'hui prônée et affichée. C'est la mode pudique, le style pudique, dont certains pointent la dimension religieuse, quand d'autres revendiquent plus globalement ce fameux air du temps à contre-courant d'une nudité écœurante. Mais quand ils s'affichent, les masques ont-ils encore une profondeur ? Les masques ne sont-ils pas ici transparents ? Ne disent-ils pas déjà tout et ne cachent rien que ce qu'ils montrent ? Que reste-t-il de la pudeur quand elle se montre ? Voilà bien toute la fugacité, toute la légèreté, toute la gaieté de la pudeur. Elle ne se dit pas, elle ne se prône pas, elle ne s'apprend pas, elle ne se marchande pas. Alors comment peut-on bien, nous aussi, en parler sans la déflorer, parce qu'elle se montre tout en s'échappant, parce qu'elle apparaît tout en disparaissant aussitôt. Comment, à notre tour, respecter la pudeur ? Ne pas vouloir, en vérité, en découvrir toute la vérité, mais respecter la pudeur de la pudeur. Et bien toute cette semaine, à l'occasion de la parution des entretiens d'Adèle Van Rett avec Eric Fiat aux éditions Plomb et France Culture sur la pudeur, nous allons donc y aller doucement, par touches, soulever le voile pour tout de suite le reposer, poser les yeux pour tout de suite les détourner, saisir mais ne jamais garder, attraper mais ne jamais conserver. Et pour dévoiler la profondeur à l'œuvre de et dans la pudeur, et bien j'ai le plaisir de recevoir Eric Fiat en personne, qui nous accompagnera toute cette semaine. Eric Fiat, professeur de philosophie morale et d'éthique médicale à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Géraldine.
Que voulez-vous ?
Vous dire ?
Ah mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées.
Faites donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas.
Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie.
Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos, et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce.
Hélas, très volontiers.
Comme il sera douci, ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit.
Voici une femme qui s'est rendue à un premier rendez-vous. Elle sait fort bien les intentions que l'homme qui lui parle nourrit à son égard. Elle sait aussi qu'il lui faudra prendre tôt ou tard une décision. Mais elle n'en veut pas sentir l'urgence, elle s'attache seulement à ce qu'offre de respectueux et de discret l'attitude de son partenaire. Elle ne saisit pas cette conduite comme une tentative pour réaliser ce qu'on nomme les premières approches, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir les possibilités de développement temporel que présente cette conduite. Mais voici qu'on lui prend la main. Cet acte de son interlocuteur risque de changer la situation en appelant une décision immédiate. Abandonner cette main, c'est consentir de soi-même au flirt, c'est s'engager. La retirer, c'est rompre cette harmonie trouble et instable qui fait le charme de l'heure. Il s'agit de reculer le plus loin possible l'instant de la décision. On sait ce qui se produit alors. La jeune femme abandonne sa main, mais ne s'aperçoit pas qu'elle l'abandonne. Elle ne s'en aperçoit pas parce qu'il se trouve par hasard qu'elle est, à ce moment, tout esprit. Elle entraîne son interlocuteur jusqu'aux régions les plus élevées de la spéculation sentimentale. Elle parle de la vie, de sa vie, elle se montre sous son aspect essentiel, une personne, une conscience. Et pendant ce temps, le divorce du corps et de l'âme est accompli. La main repose inerte entre les mains chaudes de son partenaire. Ni consentante, ni résistante, une chose. Eric Fiat, on vient d'entendre deux illustrations que l'on pourrait identifier à la pudeur. D'abord, la pudeur de Tartuffe dans la pièce de Molière, qui demande dans cette réplique célèbre à Dorine de couvrir son sein. Et puis, dans le texte que j'ai lu de Sartre, extrait de L'être et le néant, la pudeur de la femme coquette qui se refuse tout en abandonnant sa main. Alors, est-ce qu'on peut dire que la pudeur se réduit au fait de cacher, de couvrir son sein ou de se refuser, Eric Fiat?
Alors, merci beaucoup d'avoir choisi ces deux textes magnifiques, le Tartuffe et L'être et le néant, qui nous mettent tout de suite in medias res, qui nous conduisent tout de suite au cœur de notre belle notion. Mais vous l'avez suggéré, ce dont il est question dans ces deux textes, c'est plus de coquetterie que de pudeur. Il me semble en effet qu'une pudeur mise en scène, une pudeur qui s'exhiberait, cesse immédiatement d'être pudique. La pudeur, en effet, c'est une manière de se montrer sans montrer. Et la coquetterie, je la définirais comme une espèce de mise en scène de la pudeur. Yankelevitch disait « il faut se méfier d'une réserve qui s'annonce à grands cris ». Eh bien, c'est un peu ce qui se produit et chez Tartuffe et chez la femme dont Sartre ici nous parle. Une pudeur trop consciente d'elle-même dégénère en jeu. Alors bien sûr, ne séparons peut-être pas la pudique et la coquette selon un cadastre trop bien découpé. Parfois on est à la frontière, à la lisière. Il y a bien des ressemblances entre la pudique et la coquette. L'une comme l'autre baisse les yeux, retire la main. Mais je dirais que si la coquette baisse les yeux, c'est pour mieux les lever juste après qu'elle les a baissés. Si elle retire la main, c'est pour mieux la donner. Autrement dit, la coquetterie, c'est une manière de cacher pour mieux montrer. Alors que dans le cas de la pudeur, il y a vraiment un désir de cacher.
Mais tout le problème de la pudeur, c'est que on voit ce mouvement, le fait de se cacher en fait. C'est bien l'ambiguïté, la pudeur, de la pudeur aussi, que d'apparaître en tant que tel, en tant que mouvement de disparition. C'est-à-dire qu'elle demande à être vue, la pudeur, tout comme la coquetterie.
Je ne dirais pas que la pudeur demande à être vue. La coquetterie demande à être vue. La pudeur regrette d'être vue. Il me semble que la pudeur fait partie, si vous voulez, de ces vertus fragiles, sensibles, dont Yankelevitch a si bien parlé. Il les dit des vertus précaires et donc précieuses. Et je mettrais la pudeur sur le même plan que la modestie, la simplicité, la pureté, l'humilité. Ce sont des vertus dont l'exhibition équivaut à annulation. On ne peut pas proclamer les posséder sans immédiatement les perdre. Je prends l'exemple de la modestie. Quelqu'un qui arriverait très fier de lui en disant « Monsieur, pour la modestie, moi, je ne crains personne », s'avère immédiatement le plus orgueilleux des hommes. Même chose pour la simplicité ou la pureté. On ne peut être pur et le dire. L'enfant est pur, mais ne le sait pas. Et s'il le savait, il cesserait d'être pur. Et au moment où l'enfant a conscience de sa simplicité ou de sa pureté, eh bien, il cesse précisément d'être pur. Ce moment, c'est ce qu'on pourrait appeler la première ombre sur le lin immaculé de la pureté, la première ride sur le front lisse de l'innocence. Et même chose pour l'humilité. Vous savez, Rousseau dit quelque part « Je crois que jamais individu de notre espèce n'eut naturellement moins de vanité que moi ». Et Rousseau se prétend, Jean-Jacques se prétend à ce moment-là le plus humble des hommes. Et non, il est évidemment le plus orgueilleux des hommes. Donc je pense que la pudeur, comme toutes ces belles vertus précaires et précieuses, sensibles, fragiles, est une vertu qui ne veut pas se montrer, qui dégénère en coquetterie dès lors qu'elle veut se montrer.
Alors comment on peut mettre la main sur la pudeur finalement? Comment on peut la dévoiler effectivement sans la déflorer? C'est-à-dire si elle regrette de se montrer, elle se montre pourtant. Il faut donc saisir ce phénomène qui tout de suite disparaît. Comment on peut procéder pour l'approcher? Est-ce qu'on procède uniquement en écartant déjà, en disant déjà ce à quoi elle ne ressemble pas, comme la coquetterie ou comme peut-être aussi la pruderie de Tartuffe?
Comme la pruderie, la décence. J'ai vraiment beaucoup aimé votre chapeau, comme on dit dans le patois du métier. Il y a presque quelque chose de difficile dans le fait, quand on est philosophe, d'essayer d'appréhender la pudeur. Parce que si on définit la philosophie comme la quête inachevée de la vérité, et si on se souvient que le mot grec qu'on a traduit par vérité, aletheia, signifie le non-voilement, eh bien on peut en conclure qu'il y a chez le philosophe quelque chose comme un amour de la lumière, un amour de la nudité. On dit que la vérité sort toute nue du puits. Et par conséquent, le philosophe, c'est l'homme qui voudrait démasquer, dévoiler. Il serait amoureux par excellence du nu. Tout philosophe serait un philosophe des Lumières, puisqu'il préférait toujours la lumière à l'ombre. Or, lorsqu'il s'agit pour le philosophe de parler de la pudeur, eh bien, il est mis au rouet. Et alors, je pense que pour mettre la main sur la pudeur sans la blesser, eh bien, il faut avoir du tact. Vous savez, je me souviens de ce moment assez extraordinaire d'un livre de J.B. Pontalis, où J.B. Pontalis explique pourquoi, lui qui était philosophe dans sa jeunesse, a à un moment renoncé à la philosophie pour devenir psychanalyste. Pontalis a dit « Je n'ai plus envie de faire de la philosophie. Le jour où je me suis rendu compte que la philosophie abordait la réalité humaine à partir de concepts, et le jour où il s'est rendu compte qu'en allemand, le mot qui dit concept, Begriff, eh bien, c'est un mot qui vient du verbe allemand « begreifen » qui veut dire « griffer », »,« agripper ». Les philosophes ont tendance à griffer la réalité, à l'aborder à partir de distinctions conceptuelles un peu dures. Eh bien, moi j'aimerais inventer une philosophie qui caresse la réalité plutôt qu'elle ne la griffe. Et caresser, c'est au fond avoir du tact. Il y a de très beaux textes de Lévinas sur la caresse, il s'agit de toucher sans toucher. Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de faire avec Adèle Vendrette dans ses entretiens au sujet de la pudeur. Voilà pourquoi d'abord nous essayons de dire ce qu'elle n'est pas. Donc elle n'est pas en effet la coquetterie, elle n'est pas la décence, elle n'est pas la pruderie. Et puis voilà pourquoi ensuite nous essayons, mais à tâtons, tout doucement, avec tact, d'essayer de dire ce qu'elle est.
Nous avons dans chaque âme distingué trois éléments. Deux qui ont la forme d'un cheval et un troisième qui a l'aspect d'un cocher. Le premier des deux chevaux, celui qui tient la meilleure place, a le port droit, il a l'encolure haute, la ligne du naseau légèrement recourbée. Sa robe est blanche, ses yeux sont noirs. Il aime l'honneur en même temps que la sagesse et la pudeur. Nul besoin pour le cocher de le frapper pour le conduire. Le second, au contraire, est de travers, massif, bâti, on ne sait comment. Il a l'encolure épaisse, sa nuque est courte et sa face camarde. Sa couleur est noire et ses yeux gris, injectés de sang. Il a le goût de la démesure et de la vantardise. Il est sourd et c'est à peine s'il obéit au fouet garni de pointes. Lors donc que le cocher voit apparaître l'objet de son amour et, sentant la chaleur qui s'est répandue dans toute son âme, s'est laissé envahir par le chatouillement et les aiguillons du désir, alors celui des chevaux qui obéit au cocher se contraint comme toujours à la pudeur et se retient de bondir sur l'aimé. Mais l'autre s'élance d'un bond violent, donnant toutes les peines du monde à son compagnon d'attelage et à son cocher, et il est contraint à se porter vers le garçon et à lui rappeler combien sont délicieux les plaisirs d'Aphrodite. Les voilà donc tout près de lui. Il contemple le physique du garçon qui resplendit comme un astre. À cette vue, la mémoire du cocher s'est portée vers la nature de la beauté. Il l'a revue dressée à côté de la sagesse et debout sur son piédestal sacré. Cette vision l'a remplie de crainte et de respect, il se renverse en arrière. Du coup, il a été forcé de tirer par-devers lui les rênes avec une vigueur telle qu'il fait s'abattre les deux chevaux sur leur croupe, l'un sans contrainte, l'autre que submerge la démesure en le contraignant durement. Or, quand traitée plusieurs fois de la même façon, la bête vicieuse a renoncé à la démesure, elle suit désormais l'échine basse, la décision réfléchie du cocher, et lorsqu'elle aperçoit le bel objet, elle meurt d'effroi. Il en résulte que l'âme de l'amoureux est dès lors remplie de réserve autant que de crainte, lorsqu'elle suit le garçon.
Éric Chiat, quel magnifique texte nous venons d'entendre, interprété par la comédienne Marianne Bassler. C'est un extrait du Phèdre, dialogue de Platon, dans lequel il décrit l'âme, il compare l'âme tel un attelage ailé qui serait mélangé avec d'une part un cheval blanc, qui serait la pudeur même, et de l'autre un cheval noir qui serait l'intempérance, la fougue du désir. Est-ce qu'une manière de définir la pudeur, peut-être de la caresser, comme vous disiez, c'est de voir à quel moment elle se manifeste, et elle se manifeste, comme le dit Platon, au moment où il y a un objet du désir qui pointe son nez.
Oui, alors c'est un texte en effet magnifique et je trouve magnifiquement lu. Parfois on se dit que le commentaire philosophique risque d'alourdir un peu les choses et qu'un texte bien lu dit déjà tellement. Alors soyons un peu impudiques, comme Menton. Platon nous décrit ce qui se produit dans l'âme humaine au moment où il y a rencontre de la beauté. La rencontre de la beauté est troublante et elle est troublante parce que, alors que le mignon, le joli, le sexy, le pas mal, ne nous trouble pas, il y a dans la beauté quelque chose de transcendant, quelque chose qui toujours nous échappe. Et cette rencontre de la beauté, en effet, conduit Platon à décrire l'âme comme un attelage plus ou moins ailé, gouverné par un cocher et tiré par deux chevaux. Alors, très contradictoire, le cheval blanc qui est bon est plein d'aïdos, le mot grec qu'on a traduit par pudeur c'est aïdos, mais ça veut dire la réserve, la retenue, et le cheval noir qui est mauvais, évidemment, manque totalement d'aïdos. Je crois en effet que quand on rencontre la beauté, je le répète, hein, pas le mignon, le sexy, le joli, qui ne rompt pas l'immanence, qui ne sont qu'une pliure de l'immanence. Bref, lorsqu'on rencontre la beauté, notre âme se clive, parce qu'il est une partie de nous qui veut bondir sur la belle apparition, et une partie d'entre nous qui est intimidée par la rencontre de cette belle apparition. Et Platon dit que l'âme des dieux aussi peut être décrite comme tripartite, un cheval blanc, un cheval noir et puis un cocher. Mais en même temps, Platon nous dit que tout est bon dans l'âme des dieux, qu'il y a une harmonie préétablie, alors que ce n'est pas le cas dans l'âme de l'homme. Alors le cheval blanc, en effet, est plein d'aïdos. Il freine des quatre de fer devant la beauté, il se retient de l'insulter, alors que le cheval noir, lui, veut bondir vers elle. Les deux chevaux ont peur, va bientôt nous dire Platon. Mais le cheval noir a simplement peur de l'autre et peur pour soi. Il a peur d'être puni par le cocher. Alors que le cheval blanc, lui, il a peur pour l'autre et peur de soi. C'est ça que recouvre la pudeur. Cette étrange peur qu'on éprouve lorsqu'on rencontre la beauté, parce qu'on a peur de l'humilier, on a peur pour elle et on a peur de soi. Ce que je trouve génial dans le texte, c'est que Platon nous dit que le cheval noir ne doit pas être annihilé, mais simplement contrôlé. Manière pour Platon de dire que la pulsion sexuelle fait partie de l'homme et qu'elle jaillit en nous lorsque nous rencontrons la beauté. Mais il faudrait apprendre à la réserver, à maintenir un lointain dans le proche, une forme d'absence dans la présence. Et je trouve que tous les adolescents, au fond, devraient lire ce texte génial de Platon, parce que même si la rencontre de la beauté toujours clive l'âme à n'importe quel âge, à la fois on veut prendre et à la fois on a peur de prendre, il me semble que l'adolescence, c'est vraiment le moment où ces clivages, ces hiatus, ces hésitations entre le désir de sauter sur ce que l'on désire et le désir de se réserver, de prendre recul, est à son acmé.
Mais est-ce que ce clivage, Éric Fiat, ne correspond pas à une forme de clivage entre le corps et l'esprit? C'est-à-dire que l'idée de la peur que développe Platon dans ce texte peut laisser quand même entendre, malgré ce que vous dites, qu'il y a une forme d'élimination du désir, c'est-à-dire que le cheval noir, la bête vicieuse, traitée plusieurs fois de la même façon, a renoncé à la deux mesures, elle suit désormais l'échine basse, la décision réfléchie du cocher, et lorsqu'elle aperçoit le bel objet, elle meurt d'effroi. On a plutôt l'impression que le désir est annihilé par l'esprit, par une forme de rationalité, qu'il est raisonné plus qu'il n'est véritablement orienté.
L'œuvre de Platon est traversée de tensions. Je ne dis pas de contradictions, mais de tensions. Et même si en définitive, chez Platon, on a quand même cette idée selon laquelle il faut que l'esprit maîtrise le corps, et même si finalement chez Platon quelque chose se fomente comme une forme de dualisme, le dualisme, c'est l'affirmation sans laquelle, au fond, il est regrettable que l'âme se soit incarnée. L'incarnation, c'est peut-être une bonne chose pour le corps, mais c'est pas une bonne chose pour l'âme. Je trouve que au début du texte, en tout cas dans le passage qui a été lu, il n'est pas du tout acquis qu'il faille à tout prix secondariser, mépriser, annihiler les désirs du corps. Ce que j'aime le plus dans Platon, ce sont ces passages où se fait jour l'idée selon laquelle l'incarnation n'est peut-être pas toujours une mauvaise chose. J'avais fait un bouquin qui s'appelle Corps et âme, mais j'avais pris pour sous-titre qu'un peu d'incarnation, ça peut pas faire de mal. Ça veut dire que ça peut en faire, mais ça peut éventuellement n'en pas faire. Et je suis toujours sensible à ces moments où Platon semble rompre avec ce que l'université ou l'école appellera son dualisme. Et dans ce texte-là, il y a un moment où il y a quelque chose comme une légitimation du fait que lorsqu'on rencontre la beauté, quelque chose comme une pulsion se fomente en nous.
Quelque chose comme une pulsion qui ne serait ni de l'ordre purement corporel, ni seulement intellectuel. Et c'est peut-être là où apparaît la pudeur. C'est dans un conflit propre au sujet, entre d'un côté son esprit et de l'autre son corps, conflit qui justement témoignerait alors de cette incarnation.
Mais c'est ça, c'est un moment de trouble, Et là où il y a du trouble, eh bien, il y a du mélange. On peut définir la pudeur comme l'esprit qui rougit du corps, comme le moment où notre esprit, eh bien, est potentiellement gêné par ce corps qu'il n'a pas choisi. La pudeur me semble être, si vous voulez, une sorte de honte en puissance ou une puissance de honte. La pudeur, c'est une honte virtuelle, une honte possible. Le pudique n'a pas honte, mais il pourrait avoir honte. Et cela signifie que la pudeur est en effet un sentiment oscillant, incertain, troublé, puisque le pudique, eh bien, a ce corps qui parfois peut lui faire fierté, parfois peut lui faire honte. Et donc lorsque nous éprouvons la pudeur, nous éprouvons en effet un sentiment extrêmement troublé, incertain, oscillant, incertain de lui-même, puisque selon la réaction de l'autre, eh bien, nous n'aurons pas honte et à ce moment-là, nous nous élèverons le ciel de la fierté, ou bien nous aurons honte et nous abaisserons dans les bas-fonds, en effet, de la honte.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. Que c'est grisant, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement. Quand le printemps fait éclater tous les bourgeons, mes vêtements me pèsent d'une étrange façon. Les rochers, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement.
Vous écoutez France Culture, il est 10h27. Vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance et c'est le premier temps de notre semaine sur la pudeur. À l'occasion de la parution des entretiens d'Adèle Van Rett chez Plon et France Culture, des entretiens avec Eric Fiat que nous recevons toute cette semaine. Eric Fiat seul aujourd'hui. Eric Fiat, professeur de philosophie morale et d'éthique médicale à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, auteur également de Corps et âme, disponible chez Cécile Defaux, puis aussi de Grandeur et misère des hommes, petit traité de dignité, disponible aux éditions Larousse, et puis d'entretiens avec Pierre Magnard, La couleur du matin profond, c'est disponible au Petit Platon.
Au soleil, complètement, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement, nu au soleil.
Comme le remords lui-même, la honte survient à l'occasion d'un événement particulier, d'une révélation déterminée qui instaure temporairement pour la personne le régime d'ignominie. La personne se relâche de sa surveillance, la personne perd sa belle contenance et sur tel ou tel point découvre sa misère. Mais la pudeur est faiblesse chronique et asthénie de tout l'être en général, par opposition à la honte, point douloureux et névralgique, tel par exemple le fait d'avoir été surpris en flagrant délit de mensonge dans certaines circonstances déterminées. La pudeur est un espace de honte vague et diffuse qui veille au fond de nous en permanence. Le partout nulle part de l'angoisse et de l'ennui caractérise aussi la pudeur. La pudeur, comme toute phobie, est une espèce de peur sans cause et elle est d'autant plus effarouchée qu'elle est plus immotivée. Quel mal y a-t-il après tout à dévoiler un corps qui est comme tous les autres corps? Le pudique n'a évidemment rien à se reprocher. La pudeur douillette de la conscience soucieuse n'est pas motivée comme l'est le mouvement moral de la honte. Panique sans cause, elle est pourtant régionale et précisément localisée autour de certaines parties du corps. La pudeur, sentiment antécédent, est seulement plus légère que l'émotion conséquente de la honte. La pudeur empirique est une sorte de délicatesse biologique partout répandue autour de la vie. La pudeur se distingue de la honte, comme une disposition habituelle se distingue d'un mouvement de l'âme ou, comme une tendance, se distingue d'une émotion.
Mais c'est ta musique d'arabe, là.
Putain, frappe, merde, là.
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi?
Tu te masturbais? Tu pensais à quoi?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là.
Oh là là. Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein.
Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. J'en ai marre, là, ok? Putain, tu m'emmerdes, ok? Putain! Moi, si ça continue, j'appelle Enfance Maltraitée!
Eh ben, appelle-les! Appelle! Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content!
Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Oui, je serai bien content! Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette! Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Putain, on peut même plus se branler tranquille dans cette maison!
Éric Fiat, l'adolescence ou l'âge platonicien par excellence, on vient d'entendre un extrait des Beaux Gosses de Riyad Satouf, ou la mère d'Hervé, interprétée par Noémie Lovski, donc Hervé interprété par Vincent Lacoste, surgit dans la salle de bain et lui demande s'il se masturbe en riant. Alors on peut dire que l'adolescence est l'âge de l'apparition de la pudeur, de ce conflit entre l'esprit et le corps, l'esprit commence à rougir du corps. On peut dire aussi que c'est le moment où apparaît le lien indéfectible de la pudeur avec la honte, parce que comme le dit Jean Kélévitch dans le texte qu'on a entendu dans son traité des vertus, il y a une distinction à faire entre la honte et la pudeur, mais dans le cas de l'adolescence, le lien est quand même très ténu.
Oui, c'est un extrait très amusant que je ne connaissais pas. Et il est vrai que le rapport au corps change évidemment au moment de l'adolescence, si vous me permettez cette banalité. Ce qui est assez extraordinaire, si vous voulez, c'est que le fait d'avoir franchi le stade du miroir, ce que nous faisons lorsque nous sommes enfants, eh bien, semble ne fomenter rien comme une gêne à l'endroit du corps. Lorsque l'enfant va au miroir, eh bien, ça n'est pas dans l'interrogation angoissée de savoir quelle image les autres auront de moi. L'implantation erratique de ses dents l'amuse. Les boutons qu'il a sur le visage au moment de la varicelle, eh bien, lui sont sujets de joie. Il y en a un petit. Là, il y en a beaucoup. Là, il n'y en a pas. Alors qu'aller au miroir pour l'adolescent, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et la révélation de l'implantation erratique des dents, eh bien, c'est l'annonce d'un fatal destin nervalien. Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Bon, l'acné sur le visage est une source de catastrophe. Et donc, c'est vraiment, je crois, au moment de l'adolescence que le drame de la pudeur ou le drame de la possible dégénérescence de la pudeur en honte, eh bien, apparaît. Et je dirais en effet que lorsque nous sommes adolescents, eh bien, parfois nous laissons notre âme être tirée par le cheval noir et nous avons envie de bondir sur l'objet de notre désir, et que parfois au contraire nous laissons notre âme être tirée ou gouvernée par le cheval blanc et nous faisons recul tout timide que nous sommes. Alors ce passage est très très amusant. Je me souviens en effet de moments où j'étais paralysé par la beauté des jeunes filles. J'avais honte qu'elles puissent imaginer que je cache sous mes vêtements mes pudenda. Vous savez que le mot pudeur vient de pudere, qui veut dire avoir honte, mais pudere vient lui-même de pudenda, qui signifie en latin les parties honteuses, les parties pendantes. Bon. Et donc, imaginez que cette fée, que cette princesse, eh bien, puisse penser que je cachais, enfin, sous mes vêtements, ces pudenda et cette ville turgescent. C'était un véritable drame. Et résultat, je n'osais pas, en effet, faire des gestes qui, peut-être, étaient attendus. Je me faisais un honneur de ma pusillanimité. J'ennoblissais ma peur parce que j'étais très gêné par ma nouvelle incarnation. Et cette gêne à l'endroit de cette nouvelle incarnation, hein, Françoise Dolto, le complexe du homard, c'est comme si on recevait un nouveau corps. Cette gêne à l'endroit de notre nouvelle incarnation, ben, c'est toute l'affaire de l'adolescence. Et souvent, je dirais que l'adolescent, eh bien, passe en effet d'un excès de pudeur. Il n'ose pas faire les gestes de tendresse élémentaires que peut-être l'autre attend, à un défaut de pudeur, hein. À savoir qu'il bondit sur ce qu'il, désire.
Mais dans le texte qu'on a entendu interprété par Marianne Bassler, donc le texte de Jean Kelevitch dans son Traité des Vertus, c'est le troisième volume, L'innocence et la méchanceté, c'est tout à la fin de ce volume. Jean Kelevitch établit cette distinction entre la honte et la pudeur. La pudeur est cet état permanent qui veille au fond de nous, qui est sans objet, qui est proche de l'angoisse. Quand la honte survient à un moment déterminé, c'est-à-dire le moment où en fait on se fait surprendre, hein, c'est Hervé qui se fait surprendre par sa mère dans la salle de bain, dans le film de Riyad Satouf. Mais est-ce que cette distinction entre la honte et la pudeur peut être définitivement dépassée? C'est-à-dire que la honte apparaît à l'adolescence et puis peu à peu, plus on maîtrise ce cheval noir en nous, plus la honte va disparaître pour se transformer en pudeur. Est-ce qu'on pourrait expliciter ce lien entre honte et pudeur de cette manière-là, Éric Fiat?
Je crois que vous avez tout à fait raison. Une perplexité m'a toujours pris lorsque je réalisais que le mot pudeur vient du verbe poudérer qui veut dire avoir honte. Il n'y aurait donc pas de différence entre la pudeur et la honte. Mais si, Jean Kelevitch le dit superbement, car en effet, la pudeur, c'est la possibilité d'une honte, ou une honte possible, une honte en puissance, ou une puissance de honte. Alors simplement, on peut passer de la pudeur et de la honte à la honte et de la honte à la pudeur. Hein. Alors il faut les distinguer. Le honteux voudrait disparaître sous terre, le pudique se montre discrètement. Le honteux voudrait devenir invisible à tous les regards, le pudique s'exprime par la litote et l'euphémisme. Mais cette distinction ne laisse pas que l'on puisse en effet passer de la pudeur à la honte et de la honte à la pudeur. Alors prenons essayons de dire les choses à partir de déterminations physico-chimiques. Je dirais que la pudeur pardon, est brouillardeuse, diffuse, gazeuse, alors que la honte est solide, a des contours clairs. Et alors on peut passer en effet de la pudeur à la honte. À ce moment-là, le passage de la pudeur à la honte, c'est une précipitation, une grumélisation, une cristallisation. Le brouillardeux, le diffus, le gazeux va trouver son abcès de fixation, son caillot. Ça, c'est le passage de la pudeur à la honte. Mais le passage de la honte à la pudeur est aussi possible. Et à ce moment-là, le passage de la honte à la pudeur, eh bien, ça va être diffusion, dispersion, généralisation, ventilation, comme on dit dans les tontons flingueurs, hein, je ventile. Puisque l'on passe, en effet, de quelque chose d'aigu à quelque chose de chronique. Alors je crois qu'en effet, l'adolescence est le moment où c'est le plus difficile d'être incarné et de réconcilier les désirs du corps et les désirs de l'âme. Mais même bien après l'adolescence, eh bien, l'émulsion ne se fait jamais totalement, jamais définitivement entre les uns et les autres.
Il faut peut-être aussi signaler, Éric Fiat, vous allez me dire ce que vous pensez, mais qu'entre la honte et la pudeur, il y a aussi une différence qui est le rapport qu'on a au monde. C'est-à-dire que la honte, c'est quand on est surpris par quelqu'un d'autre, alors que la pudeur, en fait, se joue entre nous et nous-mêmes. Il n'y a pas l'interaction, l'interférence d'un autre, sauf peut-être fantasmé, imaginé. Alors que la honte, véritablement, on est surpris par quelqu'un, et ce n'est pas tant l'esprit, notre esprit qui rougit de notre corps, que notre esprit qui rougit de notre corps vu par quelqu'un d'autre, dans le cas de la honte.
Bien sûr, le passage de la pudeur à la honte, c'est l'autre qui en a la clé. Et si l'autre me regarde avec pudeur ou me touche avec tact, eh bien je ne connaîtrai pas ce drame de la dégénérescence de la pudeur en honte. En revanche, s'il me regarde avec impudeur et s'il me touche sans tact, alors là je connaîtrai ce drame-là. Oui, ce passage doit pratiquement tout à l'attitude, au regard de l'autre.
Dans tout ce qui est continu et divisible, on peut trouver le plus, le moins et l'égal. Et cela se détermine soit dans la chose même, soit relativement à nous. Or, l'égal est une sorte de milieu entre l'excès et le défaut. J'appelle milieu de la chose ce qui se trouve à égale distance de chacun des deux extrêmes, milieu qui est un et le même aux yeux de tous. Mais en revanche, le milieu déterminé relativement à nous, c'est ce qui n'est pour nous ni trop ni trop peu. Or, ce milieu n'est pas une chose unique, ni le même pour tous. Ainsi, quiconque s'y connaît fuit alors l'excès et le défaut. Il cherche au contraire le milieu et c'est lui qu'il prend pour objectif. Et ce milieu n'est pas celui de la chose, mais celui qui se détermine relativement à nous. Dès lors, si c'est ainsi que toute connaissance réussit à remplir son office, en gardant en vue le milieu et en œuvrant dans sa direction, et si de leur côté, les bons artisans l'ont en point de mire lorsqu'ils travaillent, mais que la vertu comme la nature surclasse toute forme.
Le petit Cesario va partir ce matin, c'est-à-dire dans quelques minutes. Il va s'embarquer, ce petit voyer, cette petite crapule de chauffeur, là, il s'embarque sur le bateau de sa mère, vous voyez ici. Or, Cesario nous a révélé le but de son voyage, une visite à un ami. Eh bien, moi, je dis que cet ami, I, est une amie,
I. Yeah. Et moi, je prétends que si le jeune homme a dit qu'il allait voir un ami, I, il n'y a pas de raison qu'il allait voir une amie, I. Yeah. Et pour quelle raison?
Parce que par pudeur, il ment. Sais-tu ce que c'est que de mentir? As-tu entendu parler du mensonge?
Là, César, tu vas un peu loin. À moi, il me demande si je sais ce que c'est que le mensonge. Moi qui le connais par cœur, moi qui le pratique depuis ma naissance, j'ai menti à ma nourrice, j'ai menti à ma mère, j'ai menti à mon père, j'ai menti à mes frères, j'ai menti à mon quartier maître, j'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes amis. Ouais, 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 je vous ai menti à tous.
Et ce menteur affirme que Césario ne ment pas. Et à son avis, il va vraiment chez un ami. Pourquoi te mentirait-il à toi?
Je lui ai dit plus de 100 fois, mais c'est un mot qu'il ne comprend pas. Par pudeur. La pudeur, c'est un sentiment délicat, nuancé. C'est un sentiment très fin, très joli. C'est le contraire de l'escarte-figuerie.
Voilà donc, Eric Fiat, le contraire de la pudeur, c'est l'escarte-figuerie du nom du personnage Félix Escarte-figue, donc dans César, le film de 1936 de Marcel Pagnol. L'escarte-figuerie, c'est donc le contraire de la pudeur, la délicatesse, qui est la délicatesse, la nuance, la fragilité. L'escarte-figuerie, c'est la lourdeur. Comme le dit Aristote à propos de la vertu dans le texte que j'ai lu dans son Éthique à Nicomaque, la pudeur serait du côté de la vertu, de cette sorte de milieu entre l'excès et le défaut. Est-ce que ce serait une manière justement de définir plus positivement la pudeur, Eric Fiat?
Oui, tout d'abord, merci d'avoir fait écouter ce passage de Pagnol que j'aime beaucoup. J'étais très heureux d'avoir trouvé ce passage-là, parce que beaucoup de philosophes ont distingué la pudeur de la coquetterie, la pudeur de la décence, la pudeur de la pruderie, la pudeur de la honte. Mais la distinction de la pudeur et de l'escarte-figuerie, ça c'est quelque chose d'absolument inoubliable. Alors en effet, vous vous en souvenez, Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, définit la vertu comme étant juste mesure entre deux vices. D'une part, un vice par défaut, il n'y en a pas assez, d'autre part, par un vice par excès, il y en a trop. Alors dans la traduction que vous avez proposée, vous disiez juste milieu. Je préfère juste mesure parce que il y a toujours le risque, lorsque l'on traduit le terme d'Aristote qui est mésotès par juste milieu, de faire croire que la vertu se trouve dans une espèce de médiocre tempérance. Non, la vertu est au sommet d'un triangle. Je prends des exemples avant de revenir à notre chère pudeur. Le courage, c'est la juste mesure entre le vice par défaut, c'est-à-dire la lâcheté, et le vice par excès, qui est la témérité. La générosité est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité. Et enfin, la pudeur est la juste mesure entre l'obscénité, qui est le vice par défaut, le manque de pudeur, et la pruderie ou la pudibonderie, qui c'est le vice par excès. Mais surtout, vous voyez qu'il ne faut pas placer la vertu au milieu d'un segment de droite, à l'une des extrémités duquel on trouverait le vice par défaut, à l'autre extrémité duquel on trouverait le vice par excès. Non, je place, avec Aristote, la vertu au sommet d'un triangle. Triangle qui est bâti de telle sorte que l'homme du défaut est plus proche de l'homme de l'excès qu'il ne l'est de l'homme vertueux. Pour être un peu concret, il me semble que le lâche est plus proche du téméraire qu'il ne l'est du courageux. Pourquoi? Eh bien parce que ni le lâche ni le téméraire ne sont de bons soldats. Le lâche, c'est celui qui fuit quand il faudrait combattre. Le téméraire, c'est celui qui combat quand il faudrait fuir. Seul est un bon soldat, le courageux, qui souvent en effet combat, mais parfois fuit, car il est des retraites qui ne sont pas des lâchetés, mais qui sont nécessaires à la victoire finale. De même, il me semble que l'avare est plus proche du prodigue qu'ils ne le sont tous deux du généreux, car ni l'avare ni le prodigue n'ont un bon rapport à l'argent. L'avare, c'est celui qui garde ce qu'il faudrait donner. Le prodigue, c'est celui qui donne ce qu'il faudrait garder. Un généreux, ça donne beaucoup, mais ça garde un peu. Et bien de même, il me semble que l'obscène est plus proche du prude qu'on ne pourrait le croire à première vue. Car il me semble que, et l'obscène, et le prude rendent impossible le désir. Car pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait attente, imagination. Je définis le désir comme l'attente de ce qui n'attend pas. Donc, bien sûr que j'ai envie, cheval noir oblige, de bondir sur ce que je désire. Mais en même temps, cheval noir, cheval blanc oblige, j'aimerais aussi attendre un petit peu. Et par conséquent, il me semble que l'obscène, dévoilant trop vite, coupe l'herbe sous les pieds du désir. Quand le prude ou le pudibond, cachant trop longtemps, finit par décourager le désir. C'est ça le génie aristotélicien, d'avoir au fond montré que l'homme du défaut est plus proche de l'homme de l'excès qu'on aurait pu le croire à première vue.
Alors qu'est-ce qu'être un bon pudique, Éric Fiat, dans la mesure où on l'a vu au départ, la pudeur se distingue de la coquetterie parce que la pudeur n'est pas calculée, c'est quelque chose d'inconscient, de spontané, qu'on doit, c'est pour ça qu'il est si difficile d'ailleurs d'en parler, parce qu'on ne peut pas l'attraper, parce qu'elle échappe, et c'est même ainsi qu'elle doit être, ou qu'on ne puisse jamais l'attraper, mais on semble sous-entendre en faisant une vertu le fait qu'elle puisse s'acquérir. La vertu morale, chez Aristote, s'acquiert comme une seconde nature, par l'habitude. Ce qui voudrait dire que la pudeur n'a rien d'inné, mais pour le coup, est vraiment une question de caractère. Je reprends le titre de la collection. C'est-à-dire qu'un mélange d'acquisition, d'acquis et d'inné. Mais alors à ce moment-là, on n'est plus dans la pudeur complètement spontanée.
Alors, en définissant la vertu comme étant seconde nature, le stagirite Aristote veut la distinguer de cette première nature que serait l'instinct. Et en effet, les enfants ne sont pas instinctivement pudiques, il faut du temps pour le devenir. Il n'empêche que définir la vertu comme seconde nature, c'est murmurer, c'est suggérer qu'elle est quelque chose qui ensuite se vit comme une spontanéité. Et je crois que vous posiez la question, qu'est-ce qu'être un bon pudique ? Je crois qu'il ne faut pas répondre à cette question, parce que prescrire de l'extérieur ce qu'il faut faire pour être pudique, c'est confondre la pudeur et la décence. Je crois très important de distinguer entre la pudeur, qui même si elle a été acquise par éducation, même si l'éducation ne fait pas tout, même si elle se profile progressivement dans la vie de l'enfant, eh bien, est ensuite une spontanéité, et puis la décence. Décence, ça vient de déquête, qui veut dire il convient. La pudeur ignore le cas calcul prudent de l'étiquette, elle se vit comme une spontanéité, et je dirais que la décence, c'est la pudeur prescrite ou l'institutionnalisation de la pudeur. Donc on ne peut pas dire de l'extérieur, voilà ce qu'il faut faire pour être pudique. Raison pour laquelle il me semble que les discours d'aujourd'hui sur la mode pudique, enfin, passent complètement à côté de la pudeur. La pudeur est une injonction intérieure qui trouble celui qui l'éprouve, alors que la décence est une injonction extérieure et qui, de l'extérieur, dit voilà comment il faut être pour être un bon décent. Alors, je crois en effet que, pour essayer de la définir, le pudique, c'est celui qui voudrait garder de l'ombre dans la lumière, c'est celui qui voudrait, lorsqu'il paraît ne pas paraître complètement, qu'il voudrait garder de la réserve dans la présence. Et cette volonté-là est infiniment émouvante et aussi infiniment érotique. Peut-être que nous en parlerons dans d'autres
émissions. On en parlera demain avec Jean-Christophe Abramovici. Juste une dernière question. Vous venez de dire que la pudeur dépendait en grande partie de notre volonté, en fait, de garder de l'ombre dans la lumière. Mais jusqu'à quel point la pudeur peut-elle dépendre aussi de nous quand, par exemple, on a le bouton de sa chemise ouvert et qu'on s'en aperçoit et qu'on le referme comme ça, instinctivement, alors que, comme on l'a dit aussi au début, la coquette va ouvrir sa chemise pour montrer qu'elle est ouverte et montrer qu'elle la referme. Il y a bien quelque chose qui dépasse le sujet dans la pudeur.
Ah, mais bien sûr, ce trouble me trouble. Il est difficile à l'homme de paraître. J'aime à dire que paraître, c'est comparaître. car on est immédiatement la proie des regards d'autrui, ce qui montre ce que le regard d'autrui a de potentiellement prédateur. Peut-être que j'ai employé trop vite le mot vouloir, n'est-ce pas ? Puisqu'en effet, la pudeur se vit à la manière d'une spontanéité, d'un trouble qui me trouble. Il n'empêche qu'il faut distinguer, vous en conviendrez peut-être, entre justement la pudique et la coquette. Le bouton de trop qui est ouvert, eh bien, la coquette l'a travaillé et elle fait mine d'en être gênée. Hein. Elle ne cache que pour mieux montrer, alors que la pudique, en effet, s'en rendant compte à un certain moment, rougit. Et cette rougeur, si vous voulez, a quelque chose, en effet, d'émouvant, quelque chose de peut-être même d'érotique. Mais pour revenir à Pagnol, qui, je trouve, parle très très bien de cela, vous faisiez écouter donc le bel extrait où il faut distinguer entre la pudeur et l'escarte-figuerie. Mais il y a aussi un passage absolument extraordinaire dans Pagnol. C'est le moment où, vous savez, Marius va partir et qu'il n'ose pas le dire à son père César. Et avant que de partir, il veut dire à son père César qu'il l'aime. Mais c'est pas facile de dire à son père qu'on l'aime. La relation aux parents, surtout la relation au père, est une relation empreinte de pudeur. Et alors, en plus, quand le père est joué par Rému, qui est bourru, ce n'est pas facile de dire à son père qu'on l'aime. Et vous vous souvenez de ce que dit Marius ? Tu sais, papa.
Oui.
Tu sais, papa.
Vas-y.
Je t'aime bien. Et ce petit bien, c'est toute la pudeur.
Eric Fiat, merci. On se quitte sur Rachmaninov. C'est le concerto pour piano numéro 2 interprété par Richter. C'est un moment auquel vous tenez particulièrement. Vous trouvez cette reprise du thème particulièrement pudique.
Ah oui, merci beaucoup. C'est extraordinaire. Je disais que le « Je t'aime bien » de Marius est toute la pudeur, mais Richter, dans ce passage-là du deuxième concerto pour piano orchestre de Rachmaninov, c'est toute la pudeur. Parce que ce concerto est en effet le plus romantique, le plus romanticisant des concertos. On pourrait en faire des tonnes. Or, au moment du retour du thème, Richter s'exprime par la litote, l'euphémisme. Je disais que le honteux se tait alors que le pudique s'exprime par la litote et l'euphémisme. Raison pour laquelle, en effet, le romantisme prend toujours le risque de l'impudeur, alors que le classicisme, c'est en effet la vertu de retenue. Et c'est exactement ce que fait Richter. Là où bien d'autres pianistes, je ne les nommerai pas pour ne pas déplaire aux admirateurs de Martha Argerich, eh bien là où d'autres pianistes, en effet, à ce moment-là, en font des tonnes, sont en effet impudiques, Richter, en effet, se montre d'une sobriété, presque d'un ascétisme qui rend ce passage infiniment plus émouvant que chez les autres. Bref, on peut être maître du sentiment sans être sentimental. Et merci à Richter. Merci à Pagnol. Là encore, vous voyez que peut-être la littérature est supérieure à la philosophie ou l'art est supérieur à la philosophie, puisque nous autres philosophes qui parfois mettons voulons dire les choses avec trop de précision, bien, il suffit d'écouter ce que nous disent les grands artistes et voilà ce que c'est que la pudeur. La pudeur, c'est Richter rejouant ce thème dans le deuxième concerto Rachmaninov. La pudeur, c'est « Je t'aime bien ».
Et merci à vous, Eric Fiat. Je rappelle que vos entretiens avec Adèle Van Rett sont disponibles aux éditions Plon et France Culture dans la collection des Nouveaux Chemins Questions de Caractère. Et puis aussi de vous, on peut lire Corps et âme, c'est disponible chez Cécile Defaux. Grandeurs et misères des hommes, Petit traité de dignité, c'est disponible chez Larousse. Et puis La couleur du matin profond, des entretiens avec Pierre Magnard, disponible au Petit Platon. Et donc on se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur la pudeur avec vous, Éric Fiat, et ce sera avec Jean-Christophe Abramovici que vous dialoguerez. Il sera question de l'écriture libertine ou comment dévoiler sans montrer. Et puis quant à vous, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture pour écouter cette émission. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.